Bienvenue sur les podcasts de Profession Banlieue, le centre de ressources politiques de la ville de la Seine-Saint-Denis qui accompagne les professionnels et les acteurs du territoire depuis plus de 20 ans. Nous vous proposons de revenir dans cet épisode sur l'intervention de Thomas Delahaye, évaluateur au sein de la SCOP Quadrant Conseil. À ce titre, il forme et accompagne des professionnels en France et en Europe à l'évaluation des politiques publiques. Cette intervention est issue d'une matinée dédiée à l'évaluation des contrats de ville qui s'est tenue le 2 décembre 2021 à Profession Banlieue. Alors que 2022 est l'année de l'évaluation finale des contrats de ville, nous avions demandé à Thomas Delahaye pourquoi on évalue, comment, mais également de revenir sur la dimension politique et transformatrice de l'évaluation des politiques publiques. Bonne écoute.
Je suis donc Thomas Delahaye, je suis évaluateur, comme le disait Vincent, dans une société coopérative qui s'appelle Quadrant Conseil, qui est spécialisé en évaluation de politique publique. Pour me présenter très rapidement, je suis un urbaniste abstinent. Une de ces critiques, c'est que l'évaluation de la politique de la ville a tendance à devenir une démarche administrative et technique, là où, pour moi, pour nous, c'est d'abord une démarche politique. Et ce que je voudrais vous proposer là, c'est des éléments pour faire de l'évaluation cette démarche politique, c'est-à-dire un moment dans lequel on parle de ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, est-ce qu'on fait bien, on fait avec qui, etc. Et ça, c'est le cœur de l'évaluation. Avant de parler évaluation proprement dite, je vous parlerai évaluation, mais je vais beaucoup vous parler de posture évaluative et puis quelques pistes pour faire de la contrainte de l'évaluation une opportunité. Je pense qu'une des choses importantes à avoir en tête, c'est que en France, l'évaluation naît notamment de la politique de la ville. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs endroits où est née l'évaluation. Hein. C'est aussi né dans les bureaux de l'INSEE et de la DARES, etc., pour une part, mais c'est aussi né de la politique de la ville. Et en France, la politique de la ville, c'est le creuset où naît une évaluation qui affirme ses valeurs, qui veut transformer la société. L'évaluation qui naît à la même époque dans les ministères, elle est surtout là pour essayer de rendre des comptes, pour essayer de mesurer, etc. L'évaluation de la politique de la ville, dès le début, c'est une évaluation de combat. Et c'est une évaluation qui dit, on veut vous montrer que si on fait les choses à notre manière, comme on vous propose de le faire, on change les choses sur le territoire. Dans la société de la fin des années 70, du début des années 80, il y a une sorte de renversement de la charge de la preuve. C'est au lieu de convaincre qu'en théorie, les choses marchent, si on fait ça, c'est la bonne chose à faire, eh ben, on va vous dire, regardez en pratique ce qui marche. On est prêt à expérimenter, on est prêt à innover pour vous montrer ce qui marche sur les territoires. J'ai mis cette affiche là des Assises d'Enghien de banlieue 89 où il y avait François Mitterrand là, qui faisait l'allocation de clôture. Tout début de l'allocation, il dit « Mais quel est le bilan ?» Eh bien, le bilan, c'est qu'il y a des projets qui sont financés, etc. Et on voit que ça change la vie des habitants et on voit que ça change grandement la vie des habitants. Et on est déjà dans cette charge de la preuve. C'est, on n'est plus en train de dire « c'est la bonne chose à faire selon le ministère de l'Équipement ». C'est « Regardez, on a fait des choses sur le terrain et ces choses sur le terrain, elles ont changé la vie des gens ». Et ça, c'est le cœur de l'évaluation de la politique de la ville. Si j'insiste un peu sur cette opposition avec les ministères, c'est que c'est une évaluation qui est stratégique. Il ne s'agit pas juste de prouver, de montrer qu'on a fait des choses à une époque où on n'y croit pas hein, à ces projets qui viennent du terrain. C'est que c'est aussi une évaluation pour mettre le pied dans la porte, pour dire ça ne peut plus être uniquement les hauts fonctionnaires qui décident ce qui va se passer sur le terrain. Nous, les collectivités, nous, les acteurs de la société civile, on a aussi le droit de venir dire des choses. Et notre parole, elle compte, elle a une valeur. Et la parole des gens, la parole des associatifs, la parole des urbanistes, la parole des architectes, la parole de toutes les personnes qui sont impliquées sur le terrain, elle compte aussi. Et ça, c'est une révolution des pratiques des politiques publiques en France dans les années 80. Ce ne sont pas les gens qui savent ce qui est bon pour eux. Ce qui est bon pour eux, ce sont les hauts fonctionnaires, les décideurs, etc., qui le savent et qui essayent d'appliquer les choses. Donc, On est dans une logique qui est radicalement nouvelle et qui va prendre pas mal d'importance dans un certain nombre d'endroits. Il y a des villes en particulier où la politique de la ville a été le creuset de l'évaluation. Il y a Grenoble, hein, dont vient Annabelle, elle pourra en reparler tout à l'heure. Il y a Rennes, il y a Nantes, d'autres villes, Montreuil aussi, qui font partie de ces villes qui ont eu une pratique d'évaluation qui est vraiment née par la politique de la ville. Je le disais tout à l'heure en intro, mais ça veut dire aussi que cette évaluation qui est porteuse de valeurs très fortes, qui dit voilà la vision dans laquelle on veut s'inscrire, voilà la politique que l'on veut, etc. C'est aussi un lieu de débat et de désaccord depuis toujours. Et donc, ce que je vous dis, il faut le prendre avec le grain de sel de ces débats et de ces désaccords et de ces conflits sur la politique de la ville et l'évaluation de la politique de la ville. Je fais tout de suite un saut. Il y a les années 80, il y a plein de choses qui se passent dans les années 90 déjà autour de ces évaluations. Il y a notamment certains des premiers cabinets de conseil d'évaluation qui vont de cabinets d'évaluation qui vont se créer sur la politique de la ville. Hein, des gens comme Acadie, typiquement, sont nés de la politique de la ville. Si on se place, si on saute quelques années, qu'on se place au début des années 2000, dans les années 2010, on arrive à un des domaines qui est probablement dans les plus évalués en France. Je n'ai pas vraiment de chiffres sur les années 2000, mais on a un observatoire de la Société française de l'évaluation. Il y a une catégorie de cet observatoire qui est développement local politique de la ville. C'est 16% des évaluations qui sont menées par les collectivités territoriales en 2015-2017. C'est un gros morceau. C'est, je crois, la troisième ou la quatrième catégorie dans cet observatoire. Donc, on est sur quelque chose qui est très évalué. On est sur un bastion des démarches collaborative. Vous verrez tout à l'heure que je ne parle pas de participation, parce que je pense qu'elles sont souvent pas très participatives, mais elles sont collaboratives. C'est des lieux où on parle, où on a plusieurs personnes autour de la table, où on échange. Ce sont des évaluations où on valorise l'échange, la capacité des évaluations à permettre les échanges. C'est aussi une évaluation qui est compliquée et qui rencontre pas mal de difficultés. Alors, un des vieux débats de l'évaluation de la politique de la ville, c'est est-elle évaluable? Il y a eu des articles là-dessus, il y a eu des débats sur tout simplement est-ce que c'est évaluable. C'est intrinsèquement difficile à évaluer. Il suffit d'entendre ce que disait Vincent tout à l'heure. Est-ce qu'on évalue le hors droit commun, dans le droit commun? Ne serait-ce que de savoir ce que c'est que la politique de la ville, c'est compliqué. Donc forcément, ça pose des questions sur ce que l'on veut évaluer. Peut-être parce que l'évaluation de la politique de la ville, elle est ancienne, bah, il y a la routine qui s'installe hein, sur ces évaluations. Alors peut-être que quand on fait la première évaluation, il y a une excitation sur ah bah qu'est-ce que l'on peut en attendre? Et puis on n'a pas forcément des très bonnes expériences. Et puis l'évaluation, c'est le truc qu'on doit faire en plus. L'évaluation, c'est les indicateurs, là, c'est ça qu'on doit remplir. Moi, j'ai autre chose à faire, je suis sur le terrain, etc. C'est compliqué. Il y a la reprise en main par l'État. Alors, j'ai marqué la reprise parce que, en fait, si vous regardez sur le temps long, tous les 5 ou 12 ans, il y a l'État qui arrive en disant, mais non, on devrait faire l'évaluation comme ci ou comme ça, qui impose des critères, qui impose des indicateurs. Et puis, tous les 5 ou 10 ans, l'État finalement dit, ben non, mais peut-être que c'est les collectivités qui savent la bonne façon de le faire. Et puis, qui revient parce que, ben, il y a des soucis dans la façon dont ces collectivités font les évaluations. Une partie de ces soucis, elle est liée au fait que, comme le disait Vincent tout à l'heure, l'évaluation, notamment des contrats de ville, elle est devenue obligatoire. À partir du moment où une évaluation est obligatoire, elle n'est pas forcément volontaire. À partir du moment où elle n'est pas volontaire, bah, peut-être qu'on va juste s'assurer d'avoir les formes de l'évaluation plutôt que le fond. C'est peut-être encore pire que de ne pas faire d'évaluation. C'est probablement pire hein, que de ne pas faire d'évaluation. Ça aboutit à des rapports qui n'apportent rien, à des listes d'indicateurs, à du travail qui n'a pas de sens et qui n'a pas de sens pour vous, mais qui n'a pas de sens pour les consultants non plus, hein, qui les font. Bon, le jour où évaluateur, ça devient un bullshit job, c'est triste, quoi. Où on se dit, bah voilà, je remplis des trucs dont je ne sais pas à quoi ils vont servir. Et c'est ça aussi l'évaluation obligatoire. Et puis peut-être une dernière chose, c'est que cette évaluation des contrats de ville. Alors, quand vous êtes dans une grande ville comme Grenoble, quand vous êtes à Paris, quand vous êtes à Montreuil, quand vous êtes à pleine commune, etc., bah, OK, c'est une pratique d'évaluation, mais il n'y a pas que la politique de la ville qui est évaluée, il y a plein d'autres choses qui sont évaluées. Mais quand vous êtes une plus petite commune, quand vous êtes dans une équipe projet, etc., bah, vous êtes tout seul à faire de l'évaluation. Personne d'autre en fait. Personne d'autre ne voit bien ce que l'on peut en faire. Et donc, c'est une pratique qui est très isolée dans la collectivité ou dans l'équipe qui s'en charge. Et du coup, ça aide pas non plus, parce qu'on n'a pas d'idées, parce qu'on n'a pas de soutien, parce qu'on n'a pas forcément de relais pour en parler avec les élus, avec les gens qui sont concernés, etc. Et donc, ça renforce cet isolement et ces évaluations qui ne sont pas forcément toujours très utiles. Alors, je viens de peindre vraiment un tableau ultra noir de l'évaluation de la politique de la ville. Normalement, à ce stade, vous vous dites, OK, c'est bon, j'en fais plus jamais. Vraiment, ça n'a aucun sens. Évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein d'évaluations de la politique de la ville qui sont intéressantes. Il y a, pour ceux qui le connaissent, un bilan nuancé, intéressant, qui a été fait par Renaud Epstein au milieu des années 2000, pardon, vers 2010, voilà, qui montre les apports de ces évaluations-là. Mais force est de constater que bah, ce n'est pas drôle, ce n'est pas évident. Dans beaucoup d'endroits, on ne se dit pas chouette une évaluation de la politique de la ville, alors que en réalité, ça devrait probablement être le cas. Ce que je viens de décrire, pour pas mal d'aspects, c'est toujours vrai. Il y a aussi des évolutions qui affectent le contexte de la politique de la ville et qui font que peut-être on est dans une situation un petit peu différente. Je disais rapidement tout à l'heure, politique de la ville, ça devient de plus en plus compliqué de définir exactement de quoi on parle quand on parle de la politique de la ville. Il faut peut-être parler des politiques de la ville. Il y a certes les approches par projet sur les territoires, mais il y a eu aussi l'arrivée des approches par les droits qui changent énormément de choses. Le DALO, le DAO, ça change. L'État, quand il apporte un certain nombre d'outils, aujourd'hui, il les apporte avec de l'évaluation. Et donc, on n'a plus tant l'évaluation de la politique de la ville comme dans les années 90, où en fait, l'évaluation de la politique, c'est l'évaluation des contrats de ville. Et on est beaucoup plus dans des évaluations, alors qui, si on le dit de façon négative, s'empilent, mais je le dirai à la fin, peuvent se compléter, faire qu'on a des moyens pour faire des choses différentes, etc., etc. La deuxième chose, c'est quelque chose qui n'est pas propre forcément à la politique de la ville, mais c'est l'enjeu de démontrer l'impact, je le mets exprès entre guillemets, plutôt que la pertinence des interventions. Je commence le jargon. Impact, c'est partout en ce moment, autour de vous. Vous faites aller dans vos emails, allez taper impact, vous allez voir que c'est un peu dans n'importe quel communiqué de presse, etc., etc. Une évolution majeure de ces 5 ou 10 dernières années, c'est que la preuve de la légitimité de quelque chose, c'est qu'elle change les choses. La preuve de la légitimité d'une politique, c'est qu'elle change la vie des gens. Qui était la logique initiale de la politique de la ville. Hein. Si vous n'êtes pas capable de prouver l'impact de ce que vous faites, vous vous retrouvez dans une position défensive. À quoi ça sert, du coup, ce que tu fais? Pendant des années, c'est très visible dans les évaluations de la politique de la ville des années 90 et 2000, l'évaluation, elle s'est concentrée sur montrer la pertinence de ce qu'on faisait. On fait la bonne chose pour résoudre les problèmes ou on trouve des nouvelles solutions à ces problèmes. Typiquement, la rénovation urbaine, quoi. Comment on passe de on détruit, on reconstruit de telle façon, on résidentialise, on fait du logement social avec du logement libre, on reconstruit sur la ville, etc. Et tout ça, c'est une discussion sur ce qu'il faut faire, qui est une discussion qui est extrêmement importante. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est demandé, et en particulier à la politique de la ville, c'est de faire ses preuves. Et là, il y a un enjeu parce que les évaluations qui sont faites de la politique de la ville ne sont pas des évaluations qui regardent si on a fait ses preuves. Si, parce que bah, les professionnels de la politique de la ville sont assez convaincus de ça, mais c'est aussi une politique qui, depuis toujours, souffre d'un défaut de légitimité. Le troisième point peut-être important à avoir en tête, il y a 20 ans ou 30 ans, on disait l'évaluation de la politique de la ville, c'est complexe, et donc on disait, et donc puisque c'est complexe, on ne peut pas en voir l'impact. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils pour ça. Et il y a un enjeu à intégrer ces outils-là. Et puis peut-être un quatrième point, c'est l'arrivée des nouveaux entrants. C'est les structures de l'économie sociale et solidaire, c'est au-delà, alors déjà des missions locales, etc., toutes les structures qui se créent sur les territoires, qui s'inscrivent clairement directement dans la politique de la ville, qui en reprennent en partie les objectifs, et qui, eux, viennent avec leur démarche évaluative, parce que ce sont des structures qui doivent se faire financer, qui doivent prouver ce qu'elles apportent pour obtenir des financements de l'État, de bailleurs, de fonds privés, etc. Et qui donc viennent avec cette légitimité par l'évaluation. Et je le redirai rapidement à la fin, il y a quand même un enjeu quand on voit ça, c'est que quand vous avez, y compris des toutes petites structures qui sont capables de communiquer très fort sur l'impact, bah vous avez beau être très gros, avec des très gros budgets, faire des transformations beaucoup plus importantes. Si vous n'avez pas un discours de ce même type, vous pouvez vous retrouver en porte-à-faux et de dire, bah, OK, les petits, là, ils montrent l'impact. Donc là, il y a des enjeux qui sont assez importants. Un des enjeux de fond de l'évaluation, d'un point de vue théorique, c'est que quand vous faites de l'action publique ou quand vous faites de l'action d'intérêt général, il est extrêmement difficile de montrer que vous avez eu des conséquences. Il est extrêmement difficile de montrer que vous avez eu un succès. Dans ce petit schéma-là que vous avez à l'écran, vous avez en haut ce qu'on a dans les modèles, ce qu'on appelle la rétroaction directe par le marché. Rétroaction, c'est feedback. Vous êtes une entreprise, vous vous posez la question de est-ce que mon entreprise marche ou pas? Il y a un truc un peu bêta, hein, c'est est-ce que vous vendez des produits? Est-ce que vous vendez suffisamment de produits pour que l'entreprise elle survive? Et tout le reste, y compris toutes ces entreprises qui vous parlent de leur impact social ou sociétal, etc., c'est cerise sur le gâteau. Google, ils peuvent vous dire qu'ils sont très gentils parce que par ailleurs, ils font 5 milliards de dollars de bénéfices chaque année. Vous êtes une collectivité, vous êtes une chef de projet, vous êtes une association sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire on a un gros succès parce qu'on fait beaucoup de choses. Vous êtes Pôle emploi, vous ne pouvez pas dire c'est super, on a 5 millions de personnes, de consommateurs qui nous font confiance au quotidien pour les accompagner dans leur recherche d'emploi. Ben non, parce qu'en fait, ça ne nous intéresse pas qu'il y ait 5 millions de personnes là-dedans. En fait, ce qui nous intéresse, c'est que ces personnes, elles retrouvent un emploi, qu'elles retrouvent un emploi durable, que cet emploi y corresponde à leur qualification, à leur aspiration, que ça leur permette de vivre une vie qui leur plaît, etc., etc., etc. Et ça, en fait, on ne peut pas le savoir avec des chiffres, on ne peut pas le savoir avec des simples éléments qui sont liés à l'activité. Donc, quand je suis chef de projet et de la politique de la ville, etc., bah, je peux bien dire on a programmé 57,3 millions d'euros. Mais le fait que j'ai programmé 57,3 millions d'euros ne dit rien sur le fait que j'ai amélioré la vie des habitants. Parce qu'on est payé pour savoir, en particulier dans la politique de la ville, qu'on peut mettre beaucoup d'argent sans que forcément ça ait des conséquences sur la vie des habitants. Donc l'enjeu essentiel de l'évaluation, c'est de dire, ben, je ne pars pas de ce qui a été fait, j'essaye de me donner des moyens pour me rendre compte de ce qui s'est passé. Une autre façon de le dire, c'est que si je suis évaluateur, si je suis évaluatrice, je regarde d'abord les conséquences effectives de l'action publique sur les gens. Sur les gens que j'ai visés, sur les gens que je n'ai pas visés, mais qui sont touchés quand même. Et seulement au regard de ce que je vais avoir appris, je vais réinterroger l'action publique. Je vais me dire, est-ce que ce qu'on a fait jusque-là, c'est bien ou pas? Ça, c'est le cœur de ce que c'est qu'une évaluation. Pour le dire autrement, et pour donner une définition, évaluer, c'est juger la valeur d'une action publique du point de vue de ses résultats. Et le mot important là-dedans, c'est juger. C'est-à-dire que évaluer, ce n'est pas mesurer. Évaluer, c'est faire un jugement sur l'action publique. Le truc, c'est qu'on essaye de ne pas faire un jugement du café du coin et on essaye de ne pas faire un jugement d'expert sur ce qu'il faudrait faire en théorie, quoi. C'est toujours, dans une évaluation, se dire, je pars de faits, d'opinions, de données que je vais récupérer sur le terrain. Et ce sont ces éléments-là qui vont me permettre de dire, au regard d'un certain nombre de critères de jugement, qui vont me dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je dois réinterroger. Est-ce que on peut dire que ce que l'on fait, c'est bien ou pas bien. Et ça, c'est essentiel. C'est le cœur de l'évaluation. C'est toujours de repartir de ce résultat, de ces conséquences sur le terrain. Ça m'amène à dire bah, que cette démarche évaluative, certes, c'est quand on parle d'une évaluation, bah, c'est une démarche qu'on fait à un moment donné. C'est ce que vous êtes amené à faire obligatoirement pour les contrats de ville, que vous faites peut-être parfois spontanément. Mais c'est aussi une posture, cette logique-là, de dire je regarde les choses par les résultats, etc. Et cette posture, elle est peut-être aussi importante, elle est peut-être voire plus importante que le fait de réaliser des évaluations. C'est-à-dire que quand vous êtes les acteurs de la politique de la ville, doivent se retrouver dans une situation où parfois ils changent de chapeau, ils mettent un chapeau évaluatif, et ce chapeau évaluatif leur permet de voir différemment leur travail. Et bah, plus vous évaluez, plus vous acquérez de la posture évaluative, et plus ça vous permet d'enrichir votre travail quotidien. Par contre, vous êtes tous amenés, toutes et tous amenés, à un moment ou à un autre, à avoir de la posture évaluative. Et c'est cette posture évaluative qui peut faire en sorte que les évaluations ne vont pas être chiantes et vont vous servir à quelque chose. Le premier biais de l'évaluateur qui la caractérise, c'est de penser par les résultats. Regardez d'abord les résultats. Alors, je prends un exemple qui est à Grenoble, une évaluation réalisée par mes collègues sur l'équipe juridique mobile. L'équipe juridique mobile, c'était l'idée de dire. Bon, bah, on a du DAO ou du DALO, mais pour que ce droit soit effectif, Il faudrait que les gens aillent au contentieux pour obtenir, faire valoir leurs droits. Or, ils ne vont pas suffisamment au contentieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Solution expérimentée, une équipe de juristes mobiles qui vont voir les gens pour les dire, allons au contentieux pour faire valoir vos droits. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est un bon exemple de la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre une posture par les droits, une posture juridique et une posture évaluative. La posture par les droits, c'est de dire l'important, c'est de donner des droits. Et une fois que ces droits sont là, on peut s'appuyer dessus. La posture évaluative, là-dedans, elle va être de dire, bah, est-ce que la situation des personnes s'améliore? Est-ce que les gens qui sont passés par l'équipe juridique mobile, ils ont obtenu un meilleur logement? Est-ce que c'est le fait d'avoir attaqué qui leur a permis de le faire? Est-ce que même s'ils n'ont pas attaqué, le fait qu'ils aient eu des conseils de juristes leur ont permis de mieux faire valoir leurs droits autrement? Est-ce que la préfecture, voyant qu'il y avait une équipe juridique mobile qui arrivait, etc., a essayé de faire d'autres choses pour régler certaines situations, etc., etc. Et cette approche par les résultats, par les conséquences, elle amène à mettre en perspective le DALO ou le DAO. C'est dans cette situation qui s'améliore, qu'est-ce qui est lié, ben, finalement aux trajectoires des personnes? Qu'est-ce qui est lié au DALO ou au DAO? Qu'est-ce qui est lié à l'équipe juridique mobile? Qu'est-ce qui est lié éventuellement à autre chose? Donc, une première chose, élément essentiel que vous pouvez faire quand vous mettez votre chapeau évaluatif, c'est de dire, je pense d'abord par les résultats, par les conséquences. Est-ce que je peux d'abord regarder ça? Deuxième élément essentiel d'une posture évaluative, c'est d'être attentif aux valeurs, d'être attentif à ce qui compte. Qu'est-ce qui est important? Il y a quelque chose qui est classique dans l'évaluation de la politique de la ville et ailleurs, on va dire, ah ben oui, mais c'est pas facile d'évaluer parce que les objectifs sont pas clairs. Mais je voudrais éventer un mythe, on n'évalue pas au regard des objectifs, hein. Ça, c'est les auditeurs qui font ça. Ils prennent les objectifs et ils regardent en face des objectifs ce qu'on a fait. On évalue au regard de ce qui compte. On évalue au regard de ce qu'on veut faire. On évalue au regard de ce qui est important. On évalue au regard de ce qui est bien, de ce qui est la bonne chose à faire. Le problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas toujours cette discussion sur qu'est-ce qui est bien. Pourquoi je fais mon métier? Pourquoi est-ce qu'on met en place des actions sur un territoire? Bah, pour un certain nombre de raisons. Moi, je ne sais pas à l'avance ce que c'est. Je remarque que quand on demande aux gens, ils nous disent bah, c'est évident. Puis que quand on leur demande à chacun, puis quand on leur demande collectivement, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes attentes. Ils ne veulent pas forcément faire la même chose sur le territoire. Mais c'est ça le cœur du sujet, des critères d'évaluation. Donc, ce sur quoi on va juger, ce qui compte, c'est le nerf de la guerre. Et si on évalue au regard de critères qui vous sont imposés, bah, on a toutes les chances d'avoir des évaluations qui servent à rien. Si on vous dit le nouveau critère important, c'est l'attractivité du territoire, mais que vous n'avez pas disséqué cette question de ce que c'est que l'attractivité du territoire et est-ce que c'est vraiment ça qui est important pour vous, et donc ça vaut le coup d'évaluer là-dessus, c'est très problématique. Peut-être que dans certains cas, ça vaut le coup d'évaluer au regard de l'attractivité du territoire pour démonter le concept d'attractivité du territoire dans votre situation. Les acteurs qui sont dominants amènent des normes, des croyances, des valeurs qu'ils imposent, hein, qui vont vous dire c'est ça qui est bien dans la politique de la ville. Et même les indicateurs qu'on vous amène sont chargés de valeur. Quand on vous dit il faut regarder le taux d'emploi, on vous dit implicitement les gens dans vos quartiers, c'est des chômeurs. Et donc c'est comme ça qu'on va leur regarder. On leur assigne une identité de chômeur. Donc faire ce travail de casser les normes qui sont imposées pour se dire mais qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi sur mon territoire? C'est essentiel et ça, vous en reparlerez avec Annabelle tout à l'heure. Troisième chose auxquelles les évaluateurs, les évaluatrices sont extrêmement attentifs, c'est le cadre et c'est la focale. Alors, je vous parle en photographe amateur et pas professionnel, j'espère que j'utilise pas trop les mauvais termes, mais une évaluation, c'est comme une photo. Vous décidez que vous allez regarder certaines choses. Vous décidez que vous allez faire plein champ, plein cadre, vous décidez que vous allez aller regarder des détails. Et en fait, dans une photo évaluative, c'est aussi intéressant de voir ce qu'on a mis dans la photo que ce qu'on a laissé hors de la photo. Pourquoi est-ce qu'on décide d'aller regarder certaines choses ou pas? Et quels sont les instruments qu'on utilise pour aller regarder dans le champ? Ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Par exemple, quand on décide d'une évaluation, en particulier quand on fait un cahier des charges d'évaluation, Souvent, ce cahier des charges, on le fait un peu tout seul. On le fait trop vite parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il va falloir dépenser les budgets avant la fin de l'année, etc. Puis on a une autre réunion qui arrive derrière. Et puis on regarde les instructions, on dit OK, bah, l'évaluation, elle va porter là-dessus. Mais finalement, beaucoup de ces cahiers des charges, ils disent on va regarder là où on nous a dit de regarder. Qu'est-ce qui se passe quand on intègre d'autres perspectives? Qu'est-ce qui se passe quand on intègre les perspectives des gens qui sont sur place, qui sont sur le terrain, qui font des choses? Est-ce qu'on regarde la même chose? Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on regarde? Et en fait, c'est tout l'avantage d'avoir des évaluations obligatoires, c'est que vous êtes obligé de prendre une photo, mais on ne vous dit pas exactement laquelle. Donc, on peut tout à fait se servir du fait de faire une évaluation pour aller faire une photo ailleurs et aller regarder des choses qui ne sont pas regardées habituellement. Tout ce travail-là demande beaucoup de discussions, en réalité, hein, pour se dire quelle est la bonne perspective, etc. J'aime bien cette citation de Patrick Vivray qui dit qu'on peut avoir dans une évaluation, en amont d'une évaluation, ça sert à sortir la pépite du désaccord, de la gangue des malentendus. Dit autrement, on va discuter, qu'on va être d'accord sur ce qu'il faut regarder, mais au moins on sera d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, et peut-être qu'on sera allé regarder quelque chose qu'on ne va pas regarder habituellement. Un élément assez essentiel de ça, c'est les critères de succès ou les critères de jugement que l'on va employer dans une évaluation. Si vous faites un jugement, il vous faut des critères. Le jugement d'une évaluation, c'est un jugement explicite, donc c'est toujours sur des critères. Pourquoi vous avez acheté tel paquet de yaourts plutôt que tel autre? C'est parce que, je ne sais pas, il a moins de sucre et c'est un critère qui est important pour vous. Je prends un petit exemple avec une évaluation à laquelle on a participé il n'y a pas longtemps, les maisons à 1 euro avec travaux de Roubaix. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Beaucoup de logements en très mauvais état, etc. Volonté bah, finalement de faire venir des ménages en leur disant la maison elle est à 1 euro, il y a des travaux, on vous accompagne pour les travaux et on veut que de nouveaux ménages viennent s'installer sur le territoire. C'est une évaluation qui a été intéressante. Alors, c'est quelque chose qui est à ses débuts, il y a plein de choses qui sont en cours, etc. Mais elle est intéressante notamment pour une chose, c'est qu'on a pu se rendre compte relativement vite qu'on n'était pas d'accord sur à quoi ça sert la maison à 1 euro et sur quoi est-ce qu'on devrait la juger. Est-ce que c'est un succès si on sort des familles d'habitat indigne? C'est-à-dire si on permet finalement un parcours de familles qui étaient dans des habitats indignes pour aller dans des maisons qui sont rénovées, qui sont en meilleur état. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est bien si on réduit le nombre de logements vacants sur l'ensemble de la ville? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un succès si, en fait, on redynamise des quartiers avec ces maisons à 1 euro? Est-ce que c'est bien si on facilite l'accès à la propriété des ménages? Alors, généralement, la réponse est, ah bah, tout est bien, hein, c'est super. Alors, surtout quand vous partez d'une situation bien difficile, etc., c'est sûr que tout est bien. Mais en fait, vous ne faites pas la même politique. Vous n'allez pas avoir la même action. Par exemple, vous allez, si la question c'est les quartiers, vous allez peut-être faire en sorte d'avoir le maximum d'interventions sur des pâtés de maison pour que, par une sorte d'effet masse, le quartier change. Mais si le but c'est de réduire le nombre de logements vacants en général, vous allez plutôt partir des logements qui sont les moins amochés un petit peu partout sur le territoire et puis essayer de créer une espèce d'effet boule de neige en ayant des gens comme ça. Bon, bah, cette réflexion elle est en cours et on est typiquement dans une réflexion évaluative où on se dit, mais qu'est-ce qui compte là-dedans? Et une fois que je me suis posé la question qu'est-ce qui compte et que j'ai été capable de lui répondre, je peux réinterroger mon action. Je peux la regarder différemment parce que j'ai fixé des valeurs essentielles pour mes choix à venir. Quatrième élément essentiel d'une posture évaluative, s'appuyer sur des données empiriques. L'évaluateur, l'évaluatrice, c'est un enquêteur, une enquêtrice. On va chercher des données et la légitimité de l'évaluation, c'est de s'appuyer sur des données. Quelqu'un qui arrive en vous disant il faut faire ci ou faire ça, ce n'est pas un évaluateur. L'évaluateur ne sait pas ce qu'il faudrait faire in abstraction. Ce n'est pas vous dire ce qu'il faut faire en théorie. Il y a d'autres gens qui savent le faire et c'est super. Mais la validité de l'évaluation, c'est de dire on m'a dit que ça, c'était la bonne chose. On m'a dit la résidentialisation, c'est super. L'évaluateur, il va dire oui, mais en vrai, il se passe quoi pour les gens? Et c'est ça qui va faire la légitimité de l'évaluation et c'est ça qui est intéressant. Exemple récent, je ne cite pas le nom parce que ce n'est pas fini, d'un dispositif de prévention des expulsions locatives. C'est poussé par un acteur localement qui croit très très fort, qui dit ça va changer la vie, ça coûte moins cher de prévenir les expulsions locatives que d'avoir tous les coûts qui sont liés à une expulsion. L'évaluateur ne dit pas oui ou non, L'évaluateur, l'évaluatrice va voir la trajectoire des ménages concernés et se demande, bah, OK, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après être passé par le dispositif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens rechutent, entre guillemets, ou est-ce que les gens sont sur une meilleure trajectoire? Bon, bah, dans celui-là, ce qui est très intéressant, c'est que 3 ans après, on a 4,5% des ménages qui sont en situation, de nouveau, ils sont à risque d'expulsion locative, et donc on a 95% des ménages où ça n'est pas le cas. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes à en tirer, qui posent des questions pour l'avenir du dispositif. Dernier élément essentiel de la posture évaluative, c'est qu'une évaluation est faite pour être utile. Quand vous êtes évaluateur ou évaluatrice, vous cherchez une utilité. C'est le fond de la chose. Si on ne trouve pas d'utilité, persuadé qu'il ne faut pas faire d'évaluation. Ça n'a aucun sens. Ça prend du temps, c'est long. Donc, il faut trouver une utilité. Par contre, pour être utile, il faut être deux, quoi. Alors, si vous avez un évaluateur ou une évaluatrice qui arrive en disant oui, comment je peux vous être utile, vous ne voyez pas et on ne trouve pas, aucun intérêt. Inversement, si vous arrivez en disant alors on va trouver des utilités, puis que l'évaluateur vous dit moi j'ai un cahier des charges, il faut que je fasse un rapport, ça sert à rien. Donc, il faut être deux pour danser le tango, on dit en anglais, c'est un petit peu la même logique ici. Je vous ai fait une liste à la Prévert, je ne vais pas la passer en revue parce qu'on n'a pas une heure devant nous. Hein. Ce qui est un point intéressant dans les évaluations, c'est que souvent, on a des utilités complètement stéréotypées. On dit, ah oui, je fais une évaluation pour rendre compte de l'usage des fonds publics, ou ah oui, je fais une évaluation parce que c'est pour l'apprentissage. Les mots comme ça ne veut rien dire, on ne sait pas quoi en faire. Mais l'évaluation, ça permet de se sortir la tête du guidon, voir des choses différemment, de trouver des solutions à des problèmes concrets, comprendre ce qui se passe sur le territoire. Ça sert à convaincre, ça sert à convaincre que ce qu'on fait est bien, ça sert à convaincre que ce qu'on nous propose, c'est pas adéquat, c'est dangereux. Ça sert à monter en compétence, ça sert à plein de choses. Et donc, c'est aussi à vous de trouver ce que vous allez faire avec une évaluation. C'est pas, l'important, ce n'est pas le rapport, hein. Souvent, l'important, c'est ce que vous allez faire avec. Et donc, plutôt que de se dire, je sors mon cahier des charges, je vais faire une évaluation, peut-être le point essentiel, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui et comment est-ce que l'évaluation peut m'être utile à ça? On est pris dans des logiques où il faut toujours faire plein de choses, etc. Et on ne discute pas de pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui est important pour vous, mais qu'est-ce qui est important pour les habitants, pour différents groupes d'habitants. Intégrer d'autres perspectives, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. La consultation ou l'information des habitants, ce n'est pas intégrer les autres perspectives. Hein. Il faut beaucoup de temps de dialogue, de délibération pour ça. Partir des changements, des résultats sur le terrain pour analyser les interventions et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment ce que peut vous apporter l'évaluation et vous n'aurez pas autrement. Organiser une démarche d'enquête qui est guidée par ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de remplir des tableaux d'indicateurs. Hein. Ce qui compte, c'est des choses qui nous importent sur le terrain et formuler des jugements appuyés par l'enquête sur les sujets qui comptent. Le jugement au bout, c'est pour ça qu'on fait une évaluation. Ce n'est pas une étude. Hein. Donc, être capable collectivement à la fin de se dire bah, ce qu'on fait, c'est bien ou c'est pas bien, c'est le plus important. Pour terminer, quelques propositions pour une évaluation qui serait plus politique et plus transformative qu'elle est aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, un des points de départ, je pense qu'il faut vivre avec, c'est la suspicion d'inefficacité, quoi. La campagne présidentielle n'a qu'un tout petit peu commencé, mais combien de semaines avant que quelqu'un dise combien de milliards encore dépensés dans la politique de la ville et qui ne servent à rien? Donc, il faut vivre avec cette suspicion d'inefficacité, à la fois sur l'intervention publique. Et puis sur les publics, parce que dans cette suspicion d'inefficacité, il y a un jugement sur les habitants des territoires. Finalement, c'est leur faute, hein. S'ils se prenaient en main, on n'aurait pas ce genre de problème, etc. Donc, on vit avec ça. Et quand on est dans une évaluation de la politique de la ville, on se bat contre ça. On vit avec des attentes extrêmement fortes vis-à-vis de la politique de la ville. Et paradoxalement, avec beaucoup plus d'indulgence pour des démarches qui sont plus petites, qui sont plus simples, etc., qu'on va avoir tendance à applaudir. Première chose, les politiques de la ville, c'est par nature extraordinairement complexe. Je ne rentre pas forcément dans le détail là-dessus, mais la politique de la ville, c'est des millions et puis c'est des gens. C'est-à-dire, ça dépend énormément de la volonté des gens, ça dépend énormément de la mise en œuvre, ça dépend énormément des contextes, ça dépend énormément des historiques sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire une évaluation sans prendre en compte le fait que sur certains territoires, ça fait 40 ans qu'il y a des programmes qui disent qu'on va changer la vie des habitants. On ne peut pas prévoir les résultats, il y a plusieurs interventions. Tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement complexes. Une des façons de traiter cette complexité, c'est d'avoir des évaluations d'impact qui sont recentrées sur les cibles, les destinataires de l'action publique. Comment est-ce qu'on repart des habitants dans les politiques de la ville, des habitants, des groupements, des entreprises, des cibles de l'action publique ou parapublique ou d'intérêt général sur ces territoires? Est-ce qu'on peut repartir notamment de leur trajectoire et se rendre compte que la politique de la ville, ce n'est pas forcément grand-chose dans leur trajectoire? Ou que peut-être c'est un rôle très important à des moments clés et puis un rôle pas du tout important dans d'autres. Ça, Annabelle va en parler. Ça vaut le coup aussi de réinterroger radicalement ce qui compte pour les habitants. On a dit aux habitants, ce qui compte, c'est que vous ayez un grillage autour de votre parking. Ce qui compte, c'est que ce soit propre. Ce qui compte, c'est que vous ayez une maison, etc., etc. J'en sais rien. À un moment, il faut aussi repartir de ce qui compte réellement pour les gens et de se dire, mais comment est-ce que on affecte ça? Il y a eu un débat qui a été, je pense, très fort dans la politique de la ville, peut-être plus fort qu'ailleurs, entre finalement une évaluation qui serait presque de l'observation sociale et territoriale, de la mesure du changement avec des indicateurs, et une évaluation qui était plutôt un lieu de dialogue et finalement qui était déconnectée de cette observation sociale. Moi, je pense fondamentalement que les deux devraient aller main dans la main et que si on veut savoir si on change les choses sur le territoire, il faut connaître intimement les territoires. Il faut connaître intimement ce qui s'y passe. Je ne suis pas sûr qu'on le connaisse par des indicateurs, en particulier quand ce sont des indicateurs qui sont plaqués nationalement sur les territoires. Deuxième enjeu essentiel quand on regarde ces évaluations d'impact, quand est-ce qu'on s'affranchit de la contrainte territoriale? Alors, je pense que l'évaluation de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis, elle est très intéressante pour ça, mais ça va plus loin. Moi, j'habite à Châteaurouge, hein, dans Paris. Et les gens autour de moi, ils ne veulent pas aller partir dans un autre quartier de Paris. De toute façon, ils ne peuvent pas. Ils veulent aller en Seine-et-Marne, ils veulent aller dans l'Oise. Et en fait, ces trajectoires, elles sont là. Et ces trajectoires, elles échappent du territoire. Donc, quand est-ce qu'on se sort de cette optique territoriale pour aller voir les trajectoires des gens qui s'échappent de ça? Troisième enjeu, je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'évaluations qui se font en même temps de la politique de la ville, qui ont peut-être tendance à s'empiler. Comment est-ce qu'on pirate tout ça pour avoir des sous, en fait, et pour avoir des dispositifs qui nous permettent d'évaluer sur 5 ans, 10 ans, et d'avoir l'information qu'il nous faut pour qui est au niveau des ambitions qu'on peut avoir. Je pense que là aussi, Annabelle pourra en dire un mot. Je passe pas ça en revue, c'est un petit schéma qu'on a fait pour essayer de montrer toute la diversité des évaluations d'impact qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas mobilisées du tout dans la politique de la ville. Bah aussi parce que quand on a des cahiers des charges avec 15 000 euros pour faire une évaluation en 3 semaines, hein, je ne pose pas vraiment la question de la méthode, hein. Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a fait la différence? Dans quelle proportion? C'est quoi les bonnes configurations? Pourquoi ça marche? C'est quoi toutes les conséquences désirables et indésirables de mon intervention? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser dans des évaluations d'impact. Et ça, ce sont des questions intéressantes qui peuvent vous permettre de voir différemment ce que vous faites sur votre terrain. Deuxième grande piste, j'en parlais tout à l'heure quand on parlait de focal. Puisqu'on vous oblige à faire des évaluations, et si vous, ça ne vous intéresse pas, pourquoi vous ne feriez pas des évaluations du côté des habitants? Les évaluations de la politique de la ville, c'est le domaine de la collaboration. On a tous ces professionnels qui se mettent autour de la table et qui causent, et c'est super. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que bah, l'évaluation, c'est aussi un moment de respiration pour des professionnels qui peuvent parler de ce qu'ils font. Mais quand est-ce qu'on a des évaluations qui sont réellement faites par les premiers concernés, par des collectifs d'habitants, par certains types d'habitants? Je ne parle pas des consultations, hein. Je ne parle pas d'encore aller embêter les gens avec des enquêtes, etc. Je dis, est-ce que, par exemple, quand on a un dispositif pour la jeunesse, on peut aller voir la mission locale, on recrute une quinzaine de jeunes. On leur dit, pendant 6 mois, vous allez faire une évaluation, vous allez apprendre plein de choses, vous allez apporter votre focale sur ce qui compte pour vous, vous allez collecter de l'information de la façon qui vous semble la bonne, et vous allez faire les conclusions et les recommandations qui vous semblent les bonnes. Je pense que ça peut changer certaines choses. Je pense que ça peut apporter des choses radicalement différentes. Il faut juste accepter de se mettre en danger avec ces évaluations. Vous avez une évaluation obligatoire, vous ne savez pas quoi faire, la faites pas. Mais donner à des gens la possibilité de faire ces évaluations. Ils y apprendront quelque chose et vous y apprendrez quelque chose. Ça veut peut-être dire aussi accepter de changer un peu de rôle, d'être parrain-marraine plutôt que commanditaire d'évaluation. Il y a certains élus qui acceptent aujourd'hui de commencer à faire ça, de dire je suis sponsor d'une évaluation. Et donc, entre guillemets, je la protège et je lui donne une voix plutôt que je la commandite. Voilà, si vous avez. S'il y a parmi vous des élus qui sont prêts à avoir ce rôle, je pense que c'est un vrai rôle d'élu, ça. Et puis dernière piste, et puis je m'arrêterai là. Est-ce que, de nouveau, si vous êtes obligé de faire des évaluations, ça peut pas être des évaluations de combat? Je pense qu'on fait de la politique de la ville parce qu'on a des valeurs fortes. Sinon, on va faire autre chose, hein, parce que, honnêtement, il y a des choses plus simples à faire dans la vie. Est-ce qu'on peut porter des critères qui sont radicalement différents de ceux qui font, l'actualité? Est-ce qu'on peut évaluer au regard de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, réellement? Est-ce que ce qu'on change, ça change réellement les trajectoires? Est-ce que ça permet aux gens d'accéder à leurs droits? Est-ce que ça leur permet, d'avoir des trajectoires, auxquelles ils ont droit? Une des toutes premières évaluations qui a été faite, dans le monde, elle portait sur les questions d'égalité vis-à-vis de l'école. Et ce qui en fait une des premières évaluations, ça a été de dire, on ne regarde pas, on n'évalue pas l'égalité scolaire au regard des dispositifs qui ont été mis en place, mais au regard des trajectoires des jeunes qui sont passés par ce dispositif. C'est le rapport Coleman en 64. Je pense que c'est une leçon qu'il ne faut pas oublier. Si on veut voir si la politique de la ville favorise l'inclusion, il faut arrêter de regarder si on a mis en place des dispositifs qui favorisent l'inclusion. Mais est-ce que ça a changé sur l'inclusion? C'est des choses que vous pouvez faire, vous. Ce sont des choses aussi qui peuvent passer autrement. J'ai un de mes collègues qui travaille notamment sur les questions d'évaluation militante. Est-ce qu'on peut avoir des évaluations qui sont faites par des associations, par exemple, qui portent un point de vue très militant, qui n'est pas le même point de vue que la préfecture, que l'interco, etc., qui n'est pas le même point de vue que la Cour des comptes, mais qui est une addition à ces points de vue, qui permet de se dire, bah, quand je regarde l'avenir de mon territoire, j'ai plusieurs évaluations en réalité. Et comme j'ai plusieurs évaluations, je peux aussi avoir un débat informé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'évaluation des préfectures, des collectivités, etc. Au contraire, hein, mais commencer à avoir plusieurs évaluations, c'est s'assurer que l'on a plusieurs perspectives qui sont prises en compte dans la vraie façon dont on voit le territoire. Je vous remercie.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter notre site professionbanlieue.org pour toute information sur l'ensemble de nos actions. Nous vous invitons également à adhérer pour soutenir notre association. À bientôt pour les podcasts de Profession Banlieue.